crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous allons observer ensemble le portrait du poète Stéphane Mallarmé, peint par Édouard Manet en 1876. Ce tableau que Georges Bataille, notre regardeur, a décrit dans son livre consacré à cet artiste en 1955. Manet fait un petit portrait de moi en ce moment, écrit Stéphane Mallarmé à un ami le 19 octobre 1876. Ce curieux tableautin, ainsi que l'appelle Mallarmé, n'est qu'une petite huile sur toile de 27 cm par 36 qui fut longtemps accrochée à son domicile rue de Rome, à Paris, un petit peu au-dessus de la gare Saint-Lazare où il recevait chaque mardi. Elle est le plus célèbre portrait du poète. C'est bien sûr le signe affectueux d'un peintre déjà fameux, quoique contesté, que Mallarmé, de 10 ans son cadet, depuis 3 ans et pendant 7 ans encore, admire et visite presque chaque jour. Mallarmé, dans ce tableau, paraît, vêtu d'un paletot bleu foncé, assis, presque avachi, sur un sofa, appuyé sur un large coussin, le corps penché vers sa droite. La main gauche, dans sa poche, l'autre posée sur un livre. Et entre ses doigts, négligemment tenu, se consume un cigare dont la fumée s'élève, brouillant le fond du tableau qu'anime, voltant sur un papier peint ou une tenture brun clair, comme des motifs japonisants, brins d'herbe, feuilles, papillons. Or, ce tableau nous paraît être beaucoup plus que le portrait d'un ami. Il nous semble le manifeste d'une esthétique qui s'invente. Non pas le corps ou le visage qui sont là représentés et ressemblés pourtant, mais l'air qui s'anime tout autour et la consommation odorante du tabac qui le parfume et le rythme, des touches qui vont et viennent sur le fond comme une écriture vivace et les ombres derrière la tête qui paraissent, si l'on y regarde à deux fois, comme dans une demi-conscience, dissimuler la silhouette ou l'ombre dans l'ombre d'un corbeau. Ou encore les yeux mi-clos du poète qui est moins saisi dans la conversation qu'observé dans la rêverie que lui inspire le livre encore vierge à la tranche rouge et que sa blancheur défend. C'est donc l'air qui l'entoure, un déluge d'air, dit Mallarmé. L'air, c'est-à-dire non pas l'être, non pas le motif, mais un climat, une résonance, une importance donnée au vide, une façon d'habiter la périphérie des choses, de faire teinter l'atmosphère qui les entoure, comme si ce n'était qu'au plus près du néant, que comme par inframince, comme dirait Duchamp, la poésie et l'art devaient chercher leur sujet. Ce néant est aussi un sujet que frôle sans cesse Georges Bataille, notre regardeur. Georges Bataille écrit sur ce tableau le deuxième chef-d'œuvre absolu de Manet à ses yeux. L'écrivain a 2 ans auparavant médité un livre intitulé « Souveraineté ». Et ensuite, simultanément, il fait publier 2 livres chez Skira en 1955, l'un consacré à Lascaux et l'autre à Manet. Il ne faut pas négliger le sens de cette copublication, si j'ose dire. La souveraineté, ce livre, est pour Bataille la part libre de tout homme dont la dignité refuse d'être aliénée par les notions de bien ou de mal. L'artiste, pour lui, dans sa subjectivité souveraine, en incarne la possibilité. Lascaux, par contre, est dans son esprit la possibilité d'un sacré indépendant du bien et du mal. Et Manet, 25 000 ans plus tard, par le suprême éclat de rire que l'Olympia déclencha, ouvre le temps de l'art moderne, le temps de cette ingénuité qui ruine l'opposition entre beauté et laideur. Et il décide que Manet est celui qui tranche dans cette danse au bord du néant, celui qui apporte le rajeunissement de la beauté et qu'on désignait à l'évidence la colère et les quolibets du public.
Je m'arrête à cette toile extraordinaire qui échappe en un sens au principe de silence dont je parle. L'éloquence de cette image est discrète, mais cette image est éloquente. Ce portrait signifie. Il signifie ce que signifie Mallarmé. Pour les plus profondes raisons, ce portrait ne peut être détaché de Mallarmé. Ce regard évasif, en un sens tournant comme une fugue dans la chambre, Ce visage que l'absence de Fini libère de la pesanteur, cette attention glissante, pourtant puissamment attentive, et ce calme vertige, serait-ce l'émotion de Manet que Manet traduisit sur la toile ? Il se peut, mais auparavant, ces formes rigoureuses, dont l'essence et l'ondulation du vol et la rapidité de l'oiseau, ces sévères harmonies de bleu pâle s'associent sur la toile à Mallarmé. Le jeu n'est pas seulement celui des formes et des couleurs qu'exalte un frémissement du peintre. Ce jeu est l'expression de Mallarmé. Ce qui se passe ne dément pas, ce qui se passe expose cette valeur suprême qui est la fin de la peinture. Cette valeur est l'art lui-même, en quelque sorte dépouillé, qui succède à ces ombres pathétiques que le passé voulut mettre en puissance du monde. L'artiste, s'il est Mallarmé, est la présence de l'art, l'absence de lourdeur, rien de plus. Lorsque Manet peignit le portrait de Mallarmé, pouvait-il détruire la signification du sujet qu'il avait choisi ? Mais le sujet lui-même était la poésie, dont la pureté et la fuite éperdues des ombres, et qui laisse transparaître l'irréel. J'aperçois une sorte de grâce dans la rencontre de ces hommes. L'un et l'autre à la poursuite de la même chimère, l'un sur la toile, l'autre dans le jeu imprévisible des mots. La toile reflétait aisément ce qui réduisait l'homme au caprice peut-être le plus grave, mais en même temps le plus léger. La subtilité d'un jeu ne devait plus représenter que le jeu lui-même au sommet du subtil. Inutile à cette fin d'y rien changer. Georges Bataille, Manet, 1955.
Alors aujourd'hui, je suis accompagné par Guillaume Leblond. Bonjour Guillaume Leblond.
Bonjour.
J'ai eu la chance de voir au mois de mai dernier votre exposition magnifique qui s'appelait Les Nouveaux Anges, donc à la galerie Jocelyn Wolff. Et vous avez en ce moment une exposition intitulée Backstroke, ce qui veut dire dos crawlé en fait, à Berlin, et à la galerie Carlier-Gebauer. Et une exposition au Masmoca, donc aux États-Unis. Merci d'être avec nous. Stéphane Guégan, conservateur au département des peintures du musée d'Orsay, grand spécialiste de Manet, exposition extraordinaire en 2011. C'était vraiment une magnifique et passionnante exposition.
Merci.
Et qui s'appelait Manet, inventeur du moderne. Vous êtes apparemment plutôt d'accord avec Bataille, en tout cas sur cette idée-là.
Oui.
Et peut-être pas sur les autres.
Non.
et vous êtes auteur d'un ouvrage qui paraît cette semaine, 100 tableaux qui font débat, qui va paraître donc aux éditions Azan. Guillaume Leblond, vous avez écouté avec moi Georges Bataille. Je vois votre travail, je vois des photographies avec des bords de plage, des éléments qui sont abandonnés sur l'estran, sur le rivage. Je vois aussi des architectures vidées de tout pathos, vidées parfois de toute fonction. Je pense également à des vidéos très extraordinaires où les inondations semblent avoir défonctionnalisé le paysage. Il y a une sorte de façon de se tenir, peut-être que là, il y aura un point commun avec ce dont nous parlons, au bord du vide, très près du vide et de l'inconnu. Pour vous, le commentaire que vous avez entendu de Georges Bataille sur cette sorte d'importance du néant et du vide, comme ça, chez Manet et Mallarmé, qu'en pensez-vous ?
Au bord du vide, je pense que c'est le bon terme. J'étais surtout frappé en regardant cette toile que je suis allé voir au musée Mallarmé. Par la position de Mallarmé lui-même. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas assis du tout. Il est dans une non-position, on va dire. Il est plutôt avachi. Il n'oppose pas de corps au peintre, en tout cas à Manet. Ce qui donne une impression très particulière au tableau et surtout ce qui donne dans ce petit cadre qu'est le tableau, puisqu'il est fait 27 par 36 ou quelque chose comme ça.
Tout petit, en effet, oui.
Une surface et un espace incroyable. Il ouvre un espace incroyable parce que, justement, il n'y a pas de corps qui s'oppose à la surface. Et aussi accentué par la volute, tout concourt à ce sentiment très vaporeux du tableau et très spatial. C'est assez caractéristique de ce tableau, parce que c'est pas quelque chose finalement que j'ai pu revoir en feuilletant un petit peu les catalogues de Manet dans d'autres portraits qu'il ait fait
En effet, il y a une absence de pathos. Le corps ne s'impose pas, mais il est là aussi d'une façon très rêveuse, il faut dire. Stéphane Guégan, vous trouvez pas curieux qu'on puisse donner tant d'importance à un tablotin qui donne la sensation d'être vite exécuté? Ce n'est peut-être qu'une impression, d'ailleurs.
Non, l'importance de l'œuvre, elle est reconnue, à mon avis, dès l'époque de Mallarmé. Mallarmé, vous l'avez rappelé, l'expose. Et les fameux mardistes, ces visiteurs qui nous font rêver et qui sont venus rue de Rome pour écouter la sainte parole du poème, du poète, ont vu le tableau. Et il va connaître, à partir de 1884, à partir de la publication des Poètes maudits de Verlaine, un destin très particulier, puisque Verlaine a compris que le tableau avait une importance, qu'il était une sorte d'apothéose laïque de Mallarmé, que Manet avait, au fond, saisi non seulement la réalité d'un homme, mais également, ce que Bataille dira plus tard, la réalité d'une esthétique. Et ce tableau donc va connaître un destin tout au long du XXe siècle, qui démarre au fond avec Verlaine. C'est-à-dire qu'il va rester comme l'image la plus caractéristique de la relation de ces deux hommes, mais également de l'esthétique même de Mallarmé, qui oscille entre, comme il le dit à propos de Manet, la saisie du concret et ce que la poésie doit conserver de suggestif. Hein. D'ailleurs, Bataille insiste beaucoup sur cette dimension en 55, puisqu'elle est profondément ancrée dans sa propre esthétique. C'est-à-dire que, certes, la réalité est un néant, mais l'art, l'art existe pour le combler de ce que sont nos affects, nos idées, notre pensée, et au fond ce que le réel réveille en nous. Et si la terminologie de Bataille est si religieuse, c'est que avant lui, Mallarmé a parlé en termes religieux de Manet. Manet révèle.
Oui.
La peinture de Manet est une forme de révélation dont le mot nous est encore obscur. Elle dit une vérité inédite. Elle montre un aspect du réel que les artistes n'ont jamais su montrer ou qu'ils ont préféré tenir dans l'ombre. Donc, il y a un lien évident entre Manet, Mallarmé et Bataille plus tard, mais il est tout à fait normal, je dirais même qu'il est presque fatal, que ce soit le portrait de Mallarmé par Manet qui ait, au fond, incarné toutes ces idées,
oui,
jusqu'à nous.
On peut dire que c'est un tableau manifeste, d'une certaine façon, de toute l'esthétique mallarméenne.
Elle l'est
de toute l'esthétique de Manet. En fait, c'est ça que j'essaye
de... Au fond de leur rencontre.
Au fond de leur rencontre.
C'est ce tableau qui cristallise leur rencontre. Parce qu'en 76, date du tableau, Manet et Mallarmé collaborent à l'après-midi d'un faune. Ils publient ce livre. Mallarmé vient d'être exclu du groupe des Parnassiens. Vous l'avez rappelé, Manet reste encore un artiste débattu, voire rejeté. Et cette année-là, Mallarmé prend sa défense, puisque cette année-là, le Salon refuse à nouveau à Manet un tableau.
Guillaume, une question sur cette question de l'œuvre manifeste. Est-ce que dans le travail d'un artiste et dans votre travail, cette notion existe encore? Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous donnent la sensation ou que vous voulez réaliser pour ce parti pris manifeste?
À chaque exposition. Moi, je prends chaque exposition comme un manifeste. Je remets tout en question systématiquement. C'est pas forcément une qualité. Je peux pas faire autrement en réalité parce que je m'ennuie facilement dans mon travail. Et donc, je suis obligé de tout repenser, de tout. Et en tout cas, d'être dans cette instabilité et dans ce désir aussi de créer des expositions qui soient le manifeste de cette exposition, mais qui ne sera pas le manifeste de la suivante.
C'est-à-dire que vous avez la sensation de ne pas pouvoir, pas souhaiter, parvenir à un manifeste généralisé, comme d'une position esthétique à long terme.
Inavoué, on va dire. J'espère que c'est la succession de ces manifestes qui feront un ensemble. Quoi.
Stéphane Guégan, ce manifeste dont nous parlons, c'est un manifeste mallarméen quand même, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit pour Manet un manifeste de son propre travail, ou alors il y en a eu beaucoup de successifs, comme d'ailleurs Guillaume Leblon finalement.
Oui, comme Guillaume Leblon vient de le rappeler, et Mallarmé insiste sur ce point dans l'un des textes qu'il consacre à Manet. Pour Manet, la peinture recommence à chaque tableau. C'est un artiste qui ne se répète pas. Chaque tableau est la cristallisation d'une idée. Et à partir du moment où Manet a trouvé la formule, il passe à autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les années 1970-80, Manet est devenu, au fond, une sorte d'étoile de la postmodernité. Celui qui aurait usé et utilisé tous les styles sans choisir, en les mélangeant. Il a été, je me souviens encore de cette époque-là, c'est l'époque de l'exposition de 1983, il a été perçu comme celui qui avait brisé aussi avec cette vision linéaire de l'histoire de l'art. Il puise ici et là et il en fait sa chose. On peut dire qu'en 1976, en raison de ces livres qu'il illustre pour Mallarmé, le portrait est une forme de manifeste. Et au fond, il répond au portrait de Zola,
oui.
Qui est aussi au musée d'Orsay.
Et qui est un manifeste réaliste, voilà, alors que là, on est plutôt réaliste. Un manifeste symboliste, si je puis dire.
Ils ont tout de même en commun un petit air japonais. Vous l'avez dit en décrivant le tableau au tout début de l'émission, il y a ce mur garni d'un tissu peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui rappelle les paravents japonais. On sait que Manet a des paravents dans l'atelier et qu'il les utilise. D'ailleurs, c'est une chose intéressante à rappeler. Ce qui frappe Mallarmé et ce qui frappera plus tard Bataille, c'est que cette peinture est à la fois la plus concrète qui soit et la plus rêveuse au sens où elle s'avoue comme fiction. Sans doute, Mallarmé n'a-t-il pas posé comme le tableau le laisse entendre, en 76.
Est-ce qu'il aurait été photographié? Parce qu'il y avait un grand intérêt de Manet pour la photographie.
Il y a effectivement, il a travaillé d'après photographie. C'est par exemple le portrait de Clémenceau.
Oui.
D'ailleurs, c'est amusant de citer le portrait de Clémenceau parce que vous avez dit que que le corps de Mallarmé vous semblait absent, comme si Manet avait saisi une ombre. Mais il y a cette main tout de même. Il y a la main qui tient le cigare.
Oui.
La main qui tient le cigare, d'ailleurs, qui est au fond la main de l'évangéliste, car ce tableau-là, et Verlaine va y insister, est une forme d'apothéose. Hein. Donc, à la place de la plume de l'évangéliste, il y a un cigare et la page blanche, vous l'avez dit. De l'autre côté, il y a cette main dans la poche, virile, affirmée. Et il me semble que ce tableau a réussi à traduire une complémentarité. Il y a le rêveur. Celui qui regarde dans le cigare qui se consume son âme, il l'a dit lui-même. Et puis, il y a l'homme d'action. Parce que ce qu'il faut rappeler...
C'est le chef de file, en fait.
Ce qu'il faut rappeler, c'est effectivement, il est en train de... En quittant les Parnassiens, il est en train de prendre la tête d'une autre nouvelle modernité. Mais pour Manet, c'est aussi celui qui le défend. Le premier billet que Manet envoie à Mallarmé, c'est pour le remercier de l'article qu'il publie en 1974, au moment où, une fois de plus, Manet est refusé au salon.
Oui.
Donc il y a à la fois une admiration pour le poète, il y a une complicité pour l'homme dont il a illustré la poésie, mais aussi une forme de geste amical à l'égard de celui qui prend sa défense.
Et dans ce cas précis, c'est pas possible que ce soit Mallarmé qui fasse le manifeste, enfin qui fasse manifeste pour le tableau, c'est-à-dire qu'il prenne... carrément. Enfin, pour moi, je le dis comme ça.
C'est tout à fait possible. C'est chaque tableau.
Je pense que le sujet dépasse finalement le peintre.
Guillaume Leblanc, vous voulez dire que Mallarmé aurait poussé Manet à aller dans le sens de ce qui leur était commun. C'est ça que vous voulez dire?
En fait, c'est lui qui fait la peinture. Je pense que c'est Mallarmé qui fait la peinture de Manet, dans ce cas précis, évidemment. Et donc le sujet prend possession finalement du peintre.
C'est pour ça, Stéphane Guégan, que vous considérez peut-être que ce tableau est très écrit dans sa facture.
Oui, à différents titres. D'abord parce que, même s'il s'agit d'un tableau teint, la signature de Manet, la date du tableau sont très lisibles, très présentes. Ce qui n'est pas toujours le cas avec la peinture de Manet, où parfois la signature de l'artiste est plus discrète. Et puis, on en parlait, il y a cette... ces motifs qui servent d'arrière-plan au tableau, alors qui entraînent le spectateur dans un monde qui est celui peut-être onirique de l'après-midi d'un faune ou du corbeau de Mallarmé. Mais c'est aussi un espace graphique. Il y a cette végétation très proche de l'après-midi d'un faune, très japonaise, très chinoise. Il y a ce papillon qui renvoie à beaucoup de choses, qui renvoie peut-être à l'âme du poète.
C'est la psyché, oui.
La psyché, qui renvoie aussi à ce type d'écriture. Qui fonctionne sur des significations latentes, indirectes. Et puis, il y a ces motifs dont on ne sait pas très bien ce qu'ils représentent ou ce qu'ils ne représentent pas, et qui nous fascinent, parce qu'on peut y voir effectivement un signe, le signe de l'écriture qui est commune au peintre et à l'écrivain.
Sur notre sujet maintenant, écoutons Jean-François Chevrier qui s'entretient avec Sandra Adam. Jean-François Chevrier avait fait un livre formidable et une exposition extraordinaire au musée de Nantes qui s'appelait « L'action restreinte, l'art moderne selon Mallarmé ». C'était en 2008 et il a publié l'année dernière « L'hallucination artistique de William Blake à Sigmar Polke ».
Donc vous avez organisé au musée des Beaux-Arts de Nantes en 2005 une exposition sous-titrée « L'action restreinte, l'art moderne selon Mallarmé ». Pourquoi Mallarmé vous a intéressé en tant que regardeur du contemporain ?
Oui, enfin, il me semblait qu'à partir de Mallarmé, on pouvait repenser l'art moderne quoi, tout entier, et le repenser à partir de la relation peinture-poésie, qui d'ailleurs se concentre aussi dans ce portrait-là de Mallarmé par Manet qui vous intéresse. Et Bataille le pointe d'ailleurs, il pointe cette rencontre de la peinture et de la poésie après Valéry. Valéry, disciple de Mallarmé. Alors, nous avions fait quelque chose d'un peu complexe. On avait hésité de trop se centrer sur le coup de dé, parce que d'une certaine façon, c'était un peu une simplification d'associer Mallarmé aux avant-gardes via le coup de dé. Nous avions voulu montrer que l'effet Mallarmé dans l'art moderne ne passait pas que par le coup de dé. Et en montrant notamment comment Mallarmé avait été très important pour Braque et les cubistes. Donc, d'une certaine façon, on avait un peu écarté, disons, le Mallarmé impressionniste. Hein, c'est-à-dire celui qui vous intéresse, là, via le portrait de Manet. Mais, cela dit, le Manet impressionniste était tout de même présent. Le Mallarmé impressionniste, c'est-à-dire le Mallarmé proche de Manet et proche des impressionnistes, via Manet, était quand même présent, ne serait-ce qu'à travers un thème qui d'ailleurs se retrouve, à mon sens, reflété dans le portrait qui vous intéresse, qui est celui du suspens. Parce que vous vous souvenez de ce texte extraordinaire de Mallarmé, dont on n'a malheureusement plus que la traduction en anglais, alors il a dû être retraduit d'après l'anglais, où Mallarmé parle du tableau intitulé « Le linge » qui a été refusé au salon de 1876. Et cette description du linge est absolument extraordinaire, avec toute la réflexion de Mallarmé sur le plein air, l'idée du suspens donc, de ce linge, ce thème qui revient constamment chez Mallarmé ensuite, associé au théâtre, cette idée aussi d'une dématérialisation des figures dans l'air, l'atmosphère, qui fait écho chez Mallarmé à la figure d'Hamlet. Ça, c'est une chose qui, à mon avis, pas été suffisamment remarquée. C'est comment Mallarmé oppose la peinture impressionniste et l'effet de flottement produit dans la peinture impressionniste, flottement des apparences, l'effet d'aération au fond, hein, c'est ça le plein air, hein. Comment il oppose cela au relief, et notamment au relief au sens où le relief, c'est la sculpture, mais c'est aussi le fait positif. Et la poésie s'oppose au fait positif, c'est-à-dire aussi à tous les hommes du fait. C'est une formule, les hommes du fait, que j'emprunte à Musil. Hein, c'est-à-dire les gens qui sont dans le présent de l'action, de l'entreprise, enfin bref, tout ce dont aussi on continue à souffrir beaucoup aujourd'hui, quoi, le pouvoir de l'argent, le pouvoir du monde matériel, comme ça. Et la poésie, c'est l'opposé. Et vous voyez bien que c'est ce que reprend Bataille. Ce pouvoir de la poésie qui est un pouvoir finalement assez subversif par rapport à cette confiance comme ça dans la réalité, l'action réelle, etc., etc. Alors ce thème est passionnant, et ce thème était sous-jacent dans l'exposition, et quand vous relisez les textes de Bataille, les textes de Mallarmé sur Manet, dont Bataille s'est énormément inspiré, il est évident que son livre est hanté en quelque sorte par Mallarmé, vous retrouvez vraiment ce que je viens de vous dire. Par exemple, dans le commentaire là sur le linge, il parle du rapport de la surface et de l'espace. Il dit que c'est tout l'enjeu. Et il parle de fusion ou de lutte toujours continuée entre la surface et l'espace. Et il faut mettre ça en rapport avec le texte sur Hamlet, où il s'interroge sur le pouvoir du songe. Le pouvoir du songe.
Guillaume Leblon, vous avez écouté Jean-François Chevrier, mais pour vous, cette relation à l'espace que vous ressentez dans le tableau et que vous avez exprimé tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui d'inventer un espace qui nous soit moderne à nous cette fois-ci ?
Tout à fait. Enfin, tout dépend de quoi on parle, évidemment. En peinture, en sculpture, enfin, n'importe quel...
Vous traitez de tout cela ?
Oui.
Vous vous confrontez à tous les problèmes.
Écoutez, sur les traces des aînés, oui, je pense que c'est possible de construire un nouvel espace propre.
De quoi peut-on être délivré ? Parce que lorsque l'on écoute Bataille, on a l'impression qu'on doit être délivré du monde ombreux et mystérieux que les œuvres du passé avaient assemblé comme ça pendant toute l'histoire de la peinture. Et là, de quoi peut-on être délivré aujourd'hui où on a affaire à des espaces qui sont quasiment digitaux, qui sont parfois d'une pureté d'un vide total, etc. De quoi doit-on se délivrer au fond ?
C'est pas le plus simple, le White Cube. Hein.
Le White Cube, c'est la façon dont on appelle en général l'endroit où nous montrons maintenant les œuvres contemporaines. C'est dans des espaces blancs.
Un espace maculé, blanc, sans histoire, normalement, à part l'histoire des artistes qui ont exposé. Écoutez, c'est une question assez complexe. Enfin, pas complexe, mais en réalité, assez sur laquelle je n'ai pas tellement de prise. Et à part celle de mon travail propre, qui est. Évidemment, avant d'exposer, en tout cas les objets que je fais dans l'atelier, j'élabore des stratégies pour les montrer dans un espace. Peut-être c'est ces stratégies-là qu'on doit considérer comme des ouvertures possibles d'espaces nouveaux. Mais ces stratégies ne sont pas neuves, parce que chaque artiste a ses propres stratégies pour montrer son travail, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Mais pour moi, ces deux choses sont interdépendantes.
C'est-à-dire que je peux donner un exemple, peut-être, alors, de la façon dont vous concevez un espace.
C'est-à-dire que d'abord, je pars, quand je suis invité par un musée ou une galerie, je pars en reconnaissance, je reste en immersion dans l'espace avant de penser à quoi que ce soit d'autre, avant de penser au travail. Et j'essaie d'en mesurer les dimensions, mais aussi l'atmosphère, le passage du temps, le passage de la lumière, etc. Et avec tous ces éléments-là, et des éléments aussi extérieurs au musée, c'est-à-dire l'environnement, le contexte social, ou le contexte, l'environnement naturel, je pense mon travail.
Est-ce que dans ce travail, ce que dit Mallarmé, par exemple, lorsqu'il sort cette phrase complètement de cette sorte de succession, presque d'aphorismes, en fait, qui va constituer L'action restreinte, son très beau texte qui est une sorte de projet de livre. Et il dit « Avec le rien de mystère, indispensable, qui demeure, exprimé quelque peu ». Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez accepter dans votre travail, ce rien de mystère, exprimé quelque peu ?
Oui. Exprimer quelque peu.
C'est le peu qui est bien compliqué.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est dans un moment où on essaie de tout déplier, enfin dans un temps où on essaie de tout déplier et de tout comprendre, je vais effectivement à l'opposé, à contresens.
Stéphane Guégan, est-ce que Manet avait la conscience et la stratégie pour inventer l'espace moderne comme le suppose Bataille, par exemple ?
Assurément, si je comprends bien Bataille, le texte est lui-même un peu obscur. On peut envisager la question sous différentes lumières. Il y a d'abord, et Guillaume Leblon l'a rappelé, l'intelligence critique de Manet à l'égard de l'espace d'exposition de son temps, le salon, la galerie.
Oui, parce que si nous avons le White Cube aujourd'hui, autrefois c'était le salon.
C'était le salon.
C'était très déclaratif déjà.
Très déclaratif, très ostentatoire. Il fallait survivre. C'était une masse de 3 à 4 000 œuvres et il fallait attirer l'attention sur soi.
Et donc, j'en profite puisque vous abordez cette question pour donc rappeler que 3 tableaux ont été refusés de Manet et qui ont fait l'objet du coup d'un pamphlet d'une extrêmement saignante dont vous parliez tout à l'heure de Mallarmé.
Oui, en 1974, une première fois, et notamment avec un tableau que Mallarmé affectionne entre tous, qui est le bal masqué à l'opéra, où il voit à la fois ce qu'il attend d'un peintre moderne, c'est-à-dire la vie moderne, et cette capacité qu'a Manet à introduire la poésie que lui-même est en train de construire. Une poésie indirecte, une poésie du mystère, une poésie de la suggestion. Hein, vous savez, ne pas peindre la chose, la suggérer. Tout ça est en train de se mettre en place au moment où Manet, lui-même, au fond, le peint. Ça, au fond, Bataille l'a très bien compris. Ce tableau signifie Mallarmé. Il ne représente pas simplement un homme de lettres.
Oui.
C'est une chose importante dans le tableau, bien sûr, mais il signifie Mallarmé. C'est-à-dire qu'au fond, Manet a trouvé les moyens plastiques pour traduire une esthétique. Et au fond, une esthétique qui leur est commune. Car une des choses qui a évolué dans notre vision de Manet, c'est au fond de pouvoir dire aujourd'hui que sa peinture fonctionne comme la poésie. Elle ne cherche pas simplement à introduire des poètes, des écrivains dans son univers pour marquer des complicités historiques, mais elle fonctionne comme la poésie, c'est-à-dire qu'au-delà du choc visuel qu'elle provoque, au-delà de sa puissance réaliste, elle fonctionne comme la poésie, c'est-à-dire qu'elle est elle-même génératrice de sens. Et il me semble que s'il y a un tableau qui exprime cela, c'est-à-dire le fonctionnement intime de la peinture de Manet, c'est précisément le portrait de Mallarmé. Et c'est en cela que je dirais que Mallarmé ne tient pas toutes les ficelles du jeu.
Oui.
Effectivement, il le dit à ses correspondants, Manet est en train de peindre un petit portrait de moi, il est très fier de tout ça. Il sait que Manet a été le portraitiste de Baudelaire, de Banville, de Zola, oui. Dont il est un grand lecteur. Bref, il entre donc dans une sorte de panthéon, qui est celui du musée imaginaire de Manet, ou de la librairie, au fond, idéale de Manet.
Parce qu'il faut rappeler effectivement que Mallarmé a 10 ans de moins que Manet, donc c'est son cadet, et il voit en Manet un héros de la vie moderne tel que l'a décrit Baudelaire,
bien
et
sûr.
À travers Manet, il voit Baudelaire, qui est son poète adoré, qui est l'immense poète de l'époque.
À tel point que
et encore.
Il est le premier Mallarmé à réagir avec autant de fermeté au texte de Zola. Le texte de Zola, pour schématiser, le texte de Zola mène à Malraux, c'est-à-dire la peinture pure. La peinture, au fond, de la récréation rétinienne. Le texte de Mallarmé, lui, mène à Bataille, c'est-à-dire Bataille qui s'inscrit en faux contre la tradition de Zola relayée par Malraux, c'est-à-dire...
Il faut dire que le texte de Bataille a été publié juste après la publication du texte de Malraux.
Voilà.
Donc c'est une réponse.
Voilà. Et au fond, le texte de Bataille s'inscrit sur deux fronts. Le front de la tradition idéaliste, incarné par Breton, et le front du formalisme, incarné par Malraux. Et il revient à Mallarmé. C'est ce que dit très bien Chevrier dans l'entretien que vous avez eu avec lui, parce qu'il a senti que Bataille s'appuie, au fond, sur Mallarmé pour réintroduire du sens, pour dire « cette peinture n'est pas simplement un jeu de forme, elle est aussi un jeu de sens ». Et du reste... C'est ce sur quoi, d'ailleurs, en ce moment, j'écris. Il y a un artiste qui a compris ça au début du XXe siècle, un artiste qui nous intéresse tous autour de cette table, c'est Duchamp. Duchamp, quand Pierre Cabanne vient voir Duchamp et qu'il lui dit « Mais vous intéressiez bien sûr à Cézanne au début du XXe siècle. » Ah non, à Manet. C'est-à-dire que Duchamp, lui, qui vient du symbolisme, il a compris que la peinture de Manet est une peinture beaucoup plus subtile que ses détracteurs n'ont voulu le dire et que même ses défenseurs ne l'ont dit. J'entends, bien sûr, Zola par là.
Guillaume Leblond, je voudrais avoir votre réaction. Quand on dit qu'une cette peinture fonctionne, ça veut dire qu'elle a une signification qui se produit, que c'est quasiment une machine à produire des significations au-delà de sa représentation. Je crois que comprendre ça. Est-ce que dans votre travail, quand une œuvre fonctionne, qu'est-ce qu'elle amène comme sens? Quel sens amène-t-elle, mais comment se fait l'engrenage des significations?
C'est marrant que vous parliez d'engrenage parce que je travaille un peu sur autour de l'engrenage en ce moment, en tout cas sur la mécanique. Mais ça ne les rend pas plus faciles à circonscrire. Mais une pièce qui fonctionnerait, ce serait une D'ailleurs, pour en revenir à ce que vous disiez par rapport au sens que donnait Manet à sa peinture, je trouve que ça se sent en regardant les peintures. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est face à aussi de la pensée, pas que du réalisme. Voilà. C'est-à-dire qu'on sent dans le tableau qui nous intéresse aujourd'hui, où c'est presque que de la pensée. Et dans beaucoup d'autres tableaux, on ressent ça aussi. Dans Le Déjeuner, par exemple, de Manet, c'est très fort, ce personnage qui est présent et qui va quitter la scène pratiquement. Il y a une espèce de truc très fort autour de la pensée et comment penser la peinture. Mais mon travail est assez proche de ça, je vais dire bientôt, assez loin, mais c'est... moi, j'ai l'impression d'avoir fini une œuvre et qu'elle se tient lorsque toutes ces questions-là sont évacuées en réalité. C'est-à-dire que je les ai d'une certaine façon résolues et à ce moment-là, elle est... J'aime pas du tout le mot achevé parce que mon travail est à l'opposé de tout ça, mais en tout cas, c'est à ce moment-là où je peux décider de les montrer.
Dans votre travail, j'ai vu récemment des bas-reliefs très extraordinaires dans lesquels on voit des silhouettes créées par des froissements de vêtements sur la surface du béton, ou ce qui semble être du béton.
Du plâtre.
C'est du plâtre, oui. Mmh. Et des incrustations de formes de fleurs, de roses peut-être. Assez Mallarmé, hein, c'est-à-dire une rose en l'absence de tout bouquet, pourrait-on dire. Et puis, la présence du corps absent.
Tout à fait. Voilà. La présence du corps absent. C'est très, finalement, aussi égyptien, pour moi, puisque c'est quelque chose qui me poursuit, c'est toutes ces idées autour de la représentation du corps sans que le corps soit présent. Mais c'est vrai que ça peut être Mallarmé, hein, aussi, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses évanescentes qui sont là et qui sont absentes à la fois, et où j'espère demeure une pensée, c'est-à-dire que pas une pensée au sens un peu plus abstrait, c'est-à-dire que ça soit chargé d'une pensée et que les questions s'évacuent lorsqu'on le regarde. En fait, moi, c'est aussi ça que j'ai ressenti devant ce tableau, pour en revenir au tableau de Manet, c'est-à-dire que c'est toutes ces questions dont on parle un petit peu maintenant, elles m'ont paru tellement évidentes devant le tableau du portrait de Mallarmé, que j'étais un petit peu décontenancé au départ. C'est-à-dire que je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Et petit à petit, tout est revenu comme ça en mémoire et apparaissait de façon assez, comme ça, presque concrètement devant moi. Et donc, c'est vraiment un tableau qui est résolu au sens où il résiste dans ma mémoire.
Il y a quelque chose qui m'a étonné dans le fait que Bataille s'y intéresse, Stéphane Guégan, c'est que au fond, on a l'impression, quand on lit ce livre de Bataille, qui est assez étrange parce qu'il saisit Manet d'un seul élan, sans faire de chronologie, sans s'apesantir sur telle ou telle partie de l'œuvre, ou d'imaginer qu'il y a une généalogie des formes, qu'il y a des enchaînements et des périodes, tout est saisi globalement. Et dans cette grande saisie, évidemment, l'Olympia prend la première place. C'est le moment, ainsi que d'ailleurs l'assassinat de Maximilien, c'est le moment où l'œuvre se vide de sa signification pour faire place à une peinture qui serait, dont le sens serait repoussé. C'est curieux qu'il ait choisi le tableau également comme tableau, le deuxième plus important à ses yeux, disais-je, le tableau représentant Mallarmé, parce que là, c'est un tableau de signification et de représentation, malgré tout.
C'est le moment où le texte de Bataille dialogue directement avec celui de Malraux, puisque Malraux avait conclu à une sorte d'équation... Mallarmé, c'est Goya sans le sens. C'est donc Goya sans cette volonté de témoigner d'un moment d'histoire.
Quand il dit ça, il pense particulièrement au 13 des maillots. C'est-à-dire, vous pouvez le rappeler.
La fameuse fusillade, c'est quand on passe par quand l'armée napoléonienne passe par les armes, les insurgés espagnols. Tableau qui est au Prado, que bien sûr, qui avait. Immense tableau qui tient à la fois de l'éclair, et c'est ce qui intéresse Bataille, comment. Peindre l'instant qui sépare de la vie de la mort, comment peindre l'instant en peinture, comment le traduire dans les formes, mais c'est aussi un tableau déclaratif, c'est-à-dire il s'agit de dénoncer la barbarie des Français. Malraux, qui est obligé au fond de c'est comme ça que je le vois en tout cas, est obligé de réduire, de schématiser un peu le tableau de Manet. Manet, il ne voit plus ça, il préfère voir en Manet la pure peinture, l'avènement de la pure peinture. Et le texte de Bataille, et c'est la raison pour laquelle il est un peu torturé, ce livre. Il est magnifique, mais il est torturé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est encore sous l'ascendant de Malraux et qu'il cherche à s'en dégager grâce à Mallarmé, c'est-à-dire à revenir au sens. Donc il ne parle pas, au fond, de la non-signification de l'œuvre de Manet, mais de l'effacement de la rhétorique, de l'effacement du pathos, de l'effacement de ce qui, au fond, jusque-là, associait à l'image une interprétation transparente. Et je crois que c'est là qu'il faut saisir le lien entre Mallarmé et Bataille. Et c'est la raison pour laquelle ces deux-là sont plus fertiles aujourd'hui, à nos yeux, pour comprendre Manet, que les déclarations trop catégoriques de Malraux, si subtiles soient-elles.
Toute l'âme résumée, quand lente nous l'expirons dans plusieurs ronds de fumée abolis en autres ronds, atteste quelques cigares brûlant savamment pour peu que la cendre se sépare de son clair baiser de feu. Ainsi le cœur des romances à la lèvre vole-t-il, excusant, si tu commences, le réel par ce que vil. Le sens trop précis rature ta vague littérature. Stéphane Mallarmé.
Guillaume Leblond, vous avez entendu ce poème magnifique sur la fumée du cigare qu'il porte effectivement à la main dans le tableau que Manet a fait de lui. Et ce cigare nous rappelle quelqu'un dont nous avons parlé il y a quelques instants, qui est Marcel Duchamp. Donc il y a une importance de la fumée du cigare. Vous auriez pu parler également à propos de vos propres œuvres, d'ailleurs, quand il y a ces sortes de vêtements en promenade du cigare de Lacan. Il y a une figure du cigare, hein, une sorte de trope du cigare. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Le cigare, pour moi, c'est la pièce de Robert Gobert. Je sais pas si
qui est un artiste que vous aimez beaucoup, artiste américain. Vous pouvez en dire un mot, peut-être ?
Oui, donc c'est qui a aussi de près ou de loin beaucoup à voir avec sûrement la psychanalyse. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de du non-dit, de l'apparition, et avec des dispositifs très très simples, et notamment un cigare surdimensionné qui remplit la salle dans laquelle il est exposé de l'odeur du papier, parce qu'il est fait en vrai papier de cigare. C'est une œuvre très très belle.
Cette façon de remplir l'espace de l'hypothèse d'une odeur est quelque chose qui est assez frappant et très symboliste d'ailleurs, puisqu'on est dans l'odeur de ce qui est représenté plutôt que dans la chose même, vous le rappeliez Stéphane Guégan tout à l'heure. Mm-hmm. Cette fumée de cigare, c'est une iconographie familière de l'époque, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est frappant dans ce portrait, pardon, c'est que son iconographie et celle de la peinture classique. La représentation de l'écrivain, la main sur le livre, vous l'avez aussi bien chez les évangélistes que en toute l'histoire de la peinture. Le cigare ?
Les évangélistes, parce qu'effectivement, ici, le cigare prend la place de la plume. C'est une image de l'inspiration poétique. Alors, dans la poésie parnassienne, dont Mallarmé vient, le cigare qui se consume, c'est une image assez récurrente de l'inspiration littéraire. Donc Mallarmé tire la fumée du cigare vers l'iconographie de l'âme, hein, dans le poème qui vient d'être lu. C'est mon âme que je vois se consumer. Manet peut aller peut-être plus loin, on peut en tout cas le supposer, c'est-à-dire voir dans le cigare appliqué au fond à un portrait de Mallarmé une image même du fonctionnement de la poésie de Mallarmé, c'est-à-dire affirmant la réalité du verbe et en même temps l'illusion du monde. Vous savez qu'il a eu cette crise mystique en 1866, où il écrit à ses amis « Le monde n'existe pas, il n'y a que l'art, ces glorieux mensonges qui possèdent une réalité. » Donc on peut considérer que la fumée du cigare réaffirme l'existence, c'est paradoxal sans doute, l'existence du verbe contre, au fond, l'illusion du réel. Je ne sais pas si je suis assez clair.
Si, parce que vous opposez, en fait, il y a aussi là-dedans le rapport entre l'illusion et l'incandescence. Parce qu'il il y a la recherche quand même de cette incandescence, je
Alors
pense
là, oui.
toujours.
Là, vous avez raison, j'allais oublier, c'est bien sûr un point central et dans le texte de Mallarmé qui vient d'être lu et dans le tableau. Et Mallarmé l'a suffisamment dit à propos de Manet, ce sont des êtres d'instinct, des êtres incandescents. Cette littérature, cette peinture brûle sous la glace, sous cette forme d'impersonnalité, sous cette forme comme ça de silence. Il y a quelque chose qui brûle. Il ne s'agit pas simplement d'un jeu rationnel, il s'agit de brûler. Et sans doute, c'est une des dimensions du cigare. Mais l'autre dimension, quand on pense à l'inscription de Mallarmé, au fond, dans une généalogie poétique, c'est Baudelaire, c'est Gautier, c'est tous ces poètes qu'il a lus et relus et qui se font photographier avec des cigares à la main.
Guillaume Leblon ?
Alors, oui, moi ce que j'aime dans le cigare, c'est qu'on voit sa consommation, c'est-à-dire que la cendre ne tombe pas, enfin, sauf si on la fait tomber. En général, la cendre est dense, donc finalement on fume quelque chose qui ne disparaît pas matériellement, à la différence de la cigarette qui, elle, se consomme en 5 minutes et disparaît. Et je trouve très beau que si on ne tapote pas son cigare,
on en garde la forme.
Voilà. Garde la forme.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Stéphane Guégan en rappelant le propos de Manet, l'art, ce glorieux mensonge?
Oui, je ne peux qu'aller dans ce sens-là. Oui, pour moi, c'est évidemment le détachement qu'il faut avoir, ou en tout cas le recul qu'il faut avoir lorsqu'on regarde de l'art. Pas forcément quand on le fait, mais en tout cas, c'est un va-et-vient. Je pense que c'est l'aller-retour que moi j'ai avec le travail. C'est-à-dire ce perpétuel mensonge, de la vérité au mensonge.
Voilà. C'est curieux de consacrer sa vie à un mensonge.
Oui, mais je trouve encore plus triste de consacrer sa vie à quelque chose dont on n'aurait pas conscience que c'est un mensonge.
Et ça veut dire consacrer sa vie à la conscience.
Hein, exactement.
C'est sans doute mieux. Écoutons à nouveau Jean-François Chevrier s'entretenir avec Sandra Adam à ce propos.
Dans ce portrait de Manet, on a l'impression qu'il y a plein d'air. Cette figure a l'air seule sur ce grand mur plein de matière. Et puis il y a aussi cette figure du cigare qui pourrait suggérer justement cet air de la fumée. Vous avez parlé de Redon influencé par Mallarmé. Est-ce qu'on pourrait dire que, du coup, Mallarmé serait influencé par Manet ?
Sûr, ça, il n'y a pas le moindre doute. Et vous remarquez comment Bataille pointe exactement la chose quand il écrit « Ce visage que l'absence de fini libère de la pesanteur ». On ne peut pas être plus clair. Hein, Bataille a bien pointé la chose, sauf qu'il n'a pas repéré ce thème de l'anti-relief, je dirais. C'est à mon avis tout à fait essentiel, parce que c'est aussi une vieille histoire, c'est la vieille histoire des rapports entre la peinture et la sculpture. Mallarmé est vraiment du côté de la peinture, quoi. C'est comme l'impressionnisme d'ailleurs, hein. Et ensuite les sculpteurs ont intégré en quelque sorte l'effet de l'impressionnisme, et qui était d'une certaine façon un effet anti-plastique. Et c'est ça que repère bien Mallarmé, mais cet effet anti-plastique de la peinture impressionniste correspond pour lui, encore une fois, j'insiste, à cette figure d'Hamlet, le personnage négatif opposé à la positivité. Vous voyez, la positivité du matériel, les vivants trop en relief. La formule est extraordinaire. Et ce thème-là de l'anti-relief, vous l'avez très, très explicitement dans le commentaire, justement, sur le linge. Où il oppose la lumière du plein air au demi-jour. Le demi-jour qui est, dit-il, en usage dans les écoles. Et il dit ce demi-jour impose un relief excessif. On ne peut pas être plus clair. Impose un relief excessif. Vous voyez, il faut mettre ce relief-là en rapport avec celui du texte sur Hamlet. Là, on a vraiment une clé, vous voyez. Et on comprend que ce tableau, ce portrait, enthousiasme Bataille très exactement pour cette raison, parce que ce personnage existe dans l'atmosphère, dans la lumière. Ce n'est plus une figure en relief. Ce n'est plus un corps posé en relief dans un monde inerte, etc. Non, tout bouge. la figure, la physionomie, etc., vit dans la lumière, avec la lumière, et tout est pris dans ce moment comme ça d'exaltation, voire d'extase, au fond. L'extase étant un mot aussi important chez Mallarmé. Hein, Mallarmé parle de fond d'extase.
Stéphane Guégan, Mallarmé a été représenté par beaucoup d'autres artistes. Et d'ailleurs, la liste est assez curieuse parce qu'il y a, il me semble-t-il, une sorte de miroir entre Manet et Mallarmé. Mallarmé est représenté par Whistler, par Gauguin, par
Renoir
également. Manet, les auteurs qui ont écrit sur lui sont admirables, jusqu'à Valéry, Malraux, mais auparavant Bataille, on en a parlé, mais aussi Zola, etc. Donc il y a une sorte de miroir entre les deux, d'exercice d'admiration de l'autre discipline, quasiment.
Oui, il est tout bêtement l'héritier des cénacles romantiques dans son fonctionnement social, c'est-à-dire, bon, c'est un lecteur. Manet est un lecteur. Et
je savais qu'il était cultivé, mais on dit parfois qu'il lisait peu.
Ceux qui le disent ont guère de preuves à nous apporter, puisqu'on ne possède pas la liste de sa bibliothèque. En revanche, dans sa correspondance, si peu bavarde soit-elle, il mentionne la littérature. Et il a cherché surtout à entretenir des liens permanents avec la littérature de son temps. Il n'y a pas d'autre exemple au XIXe siècle, d'un peintre qui ait été aussi proche des grands écrivains, et notamment des poètes. D'ailleurs, une des grandes différences entre le portrait de Mallarmé et le portrait de Zola, c'est qu'il nous montre bien qu'ils n'ont pas le même mode de représentation, le même mode de transposition.
Zola, il y a des livres derrière lui, voilà. C'est une table de travail. Là, on n'est pas dans le travail.
Le personnage est solidement ancré dans l'espace. Et je comprends maintenant mieux ce que nous avons cherché à dire au début de l'émission. Mallarmé est plus absent. Mais ce n'est pas une absence on rejoindrait la psychologie du personnage, ce petit professeur d'anglais, comme ça, au fond assez, assez discret. C'est l'esthétique même de Mallarmé, c'est-à-dire cette façon de faire coexister dans la poésie la présence et l'absence. Il me semble que Manet l'a dit. Gauguin fait de Mallarmé une sorte de faune. C'est magnifique. Le portrait de Renoir n'est peut-être pas le chef-d'œuvre de Renoir. Whistler en fait un personnage évanescent. C'est splendide. On a l'impression qu'il est en train de se dissoudre devant nous.
Oui, c'est l'inanité, l'aboli bibelot.
Voilà, exactement. Chacun a cherché à saisir, pour le dire comme Bataille, la réalité profonde du personnage et a pu la dire à sa manière.
Alors, ce personnage, Manet, était aussi un passionné de la mode. Comme l'était Mallarmé, c'était aussi un point commun entre les deux, qui signait Miss Satin, ses chroniques de mode. Et vous, Guillaume Leblon, la mode ?
Ça m'intéresse.
C'est vrai ?
Je ne
m'y attendais pas.
Non, mais pas que ça, d'ailleurs. Je m'intéresse à toutes les autres formes artistiques, et pas seulement qu'aux arts plastiques. Mais je suis un petit peu la mode, tant que je puisse. Ça, grâce à... Un collectionneur pour une.
Est-ce que ça veut dire la mode, à cette époque-là, a une importance considérable? Parce que je crois, Stéphane Guégan, c'est aussi l'époque des premiers journaux illustrés et des grands magasins.
En tout cas, de l'essor dans lequel on vit aujourd'hui, bien sûr. L'expérience de La Dernière Mode, ce journal éphémère qui dure quelques numéros en 1974, donc au moment où Mallarmé et Manet se voient quotidiennement. Et passionnant parce que, effectivement, depuis le peintre de la vie moderne, depuis le texte pratiquement manifeste de Baudelaire en 63, les artistes qui cherchent à exprimer la modernité cherchent à la traduire à travers la mode, à travers la fugacité de la mode. La mode devient une métaphore même de la modernité. Et donc, ce lien est naturel. Et d'ailleurs, vous savez que Mallarmé a écrit l'ensemble des textes du journal sous différents pseudonymes. L'un d'entre eux était Olympe Négresse, donc, renvoyant bien sûr à Olympia.
Mais ça a existé beaucoup.
Guillaume Leblon,
ça me fait penser à Adolphe Loos aussi, qui a écrit sur la mode, qui comparait beaucoup les intérieurs.
Adolphe Loos, c'est l'auteur de L'ornement est un crime.
L'ornement est un crime.
Donc, ce qui paraît assez contradictoire, est-ce que vous venez de dire?
Oui, et malgré tout, il a quand même écrit, peut-être dans Malgré tout, tout un chapitre sur la façon dont il fallait s'habiller pour être un parfait homme du monde.
Quand Stéphane Guégan nous dit la mode, c'est le fugace, on comprend le fugitif, le rapide, ce qui passe, etc. Pour un sculpteur comme vous, qui malgré tout s'intéresse à la mode, c'est au fond, je dis sculpteur, vous n'êtes pas que sculpteur, mais aussi sculpteur et souvent...
C'est paradoxal.
Oui, ne laisse pas.
Mais oui, c'est parce que la mode, c'est la vie telle que le rock, c'est la vie. Je pense que l'art a plus à voir avec la mort, mais on a besoin de puiser ça dans la vie quand même. Et pour moi, ça ne s'oppose pas forcément. C'est, C'est évidemment beaucoup plus peut-être transitoire, mais ça reste une nourriture. Et normalement, on est quand même dans la même société, dans le même moment. Donc ça dit aussi d'autres choses.
Est-ce que c'est pour vous et pour eux la réinvention du visible? En fait, ce qui se passe dans cette sorte d'incroyable vitesse de la mode dès le 19e siècle, c'est une réinvention permanente des régimes de visibilité. Est-ce qu'on peut le ressentir comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on pouvait le ressentir, Stéphane Guégante, comme ça autrefois? Peut-être comme on sait, Stéphane.
Vous l'entendez comment? Est-ce qu'il s'agit de dire que la peinture de Manet, notamment dans son versant des années 70, introduit une sorte de vélocité d'exécution, de brusquerie dans l'écriture qui serait, au fond, en osmose avec le monde tel qu'il devient et dont Baudelaire et Mallarmé ont dit qu'il était celui de la modernité, de la vitesse moderne.
Oui.
Et je pense que plus encore, même peut-être que les impressionnistes eux-mêmes.
Oui, parce que souvent on parle de Manet impressionniste alors qu'il est un peu le chef de file des impressionnistes plus jeunes.
Voilà, et d'ailleurs, Mallarmé, dans son second grand texte sur Manet, insiste sur la distinction les impressionnistes et Monsieur Édouard Manet. Donc ça veut dire qu'il a bien conscience qu'il y a là une différence fondamentale entre le groupe et ce que propose la peinture de Manet. Oui, la peinture de Manet prend de la vitesse dans les années 1870 et cette vitesse est la traduction de ce que ces poètes cherchent eux-mêmes à dire sur l'époque.
Guillaume Leblond, dans les traversées que Manet fait dans ses styles réalistes, symbolistes, etc., il y a donc plusieurs vêtements qui vont l'habiller. Dans le travail de tout artiste, il y a cette métamorphose, ce moiré dans la trajectoire?
Je ne pense pas. C'est ce qui distingue Manet, en tout cas. Je ne pense pas du tout. Je pense que il a vraiment inventé ou en tout cas proposé quelque chose qui n'existait pas forcément avant lui, qui existe aujourd'hui, mais pas non plus systématiquement. C'est pas panaché de tous les artistes de comme ça de pouvoir basculer d'un moment à l'autre dans sa carrière d'artiste. Et c'est ce qui en fait vraiment sa singularité. D'ailleurs, ça, je voulais dire juste un petit mot parce que ça me fait penser à un artiste que j'ai regardé, un peintre qui s'appelle Bernard Friese, et qui a aussi concentré sa production sur justement ce renouvellement de style. Enfin, il n'y a pas de style, mais dans pas de style, il y a beaucoup de styles.
Un bouquet de styles.
Voilà, un bouquet de styles.
Stéphane Guégan, vous trouvez que Manet peut parler encore aujourd'hui à des artistes de notre génération?
Non seulement je le trouve, mais c'est les artistes eux-mêmes qui nous le disent sans cesse. On pourrait même d'ailleurs faire une exposition sur le XXe siècle de Manet ou le XXIe siècle de Manet sans grand problème. Et pour toutes sortes de raisons, parce que on peut y voir, au fond, un artiste de l'appropriation. On peut y voir un artiste de la laideur transcendée. On peut y voir un artiste mallarméen. Hein. On peut y voir un artiste du champien. Non seulement parce que, on vient de le rappeler, il n'y a pas un style de Manet, mais des styles de Manet, mais en plus parce que cette peinture reste ouverte et elle s'est voulue ouverte. Et je crois que c'est une des choses qui la rendent vivante.
Guillaume Leblond, Manet, oui, mais Mallarmé nous parlerait-il autant que Duchamp aujourd'hui?
Je ne sais pas.
Ça vous laisse quoi?
Ouais. Non, mais je dois dire que j'ai pas une passion pour Mallarmé. J'ai essayé plusieurs fois de lire sans pouvoir aboutir à quelque chose en réalité.
Lui non plus. N'a oui, pas pu vrai. Aboutir à son rêve de parvenir enfin au livre. Guillaume Leblond, j'espère que vous parviendrez à l'œuvre, en tout cas.
Je suis désolé.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam. Aujourd'hui, nous avons parlé Portrait de Mallarmé par Manet, qui appartient aux collections du Musée d'Orsay et que l'on peut en ce moment admirer au sein de l'exposition Portrait de Mallarmé de Manet à Picasso au Musée départemental Stéphane Mallarmé, à Vulaine-sur-Seine, jusqu'au 16 décembre. Alors je rappelle que le commissaire de l'exposition, c'est un métier important que je partage parfois, c'est Hervé Joubeau, conservateur en chef du patrimoine et responsable du musée, ainsi que Hélène Oblin qui l'accompagne, attachée de conservation et responsable adjointe du musée. Durant l'émission, vous avez pu entendre des musiques du compositeur français Chassol, un jeune compositeur de 35 ans, très symboliste, avec une sorte d'idée que je trouve harmonique, lumineuse et qui se rapproche beaucoup, selon moi, de Mallarmé. Une culture très large, puisqu'il a voyagé en Inde, il a voyagé et s'en est beaucoup inspiré à plusieurs reprises, comme il s'inspire parfois de Ravel et du poète merveilleux Gerasim Luka. Voilà, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr, Les Regardeurs, attaché d'émission Claire Poinsignon, lecture de texte Vincent Schmitt, à la technique Valérie Lavalard, réalisation Annabelle Brouard.